Bonjour! Aujourd'hui, nous vous offrons une sélection de textes tirés des médias suivants. Quatre temps, mieux-être et le libraire. Au programme, thérapeute urbaine de l'ombre. Une retraite satisfaisante et nos suggestions de lecture, poésie. Bonne écoute!
Thérapeute urbaine de l'ombre. Un texte de Sophie Payeur, paru dans le volume 43, numéro 3 de la revue Quatre temps. Et si la forêt offrait mieux à notre santé que bien des prescriptions de la médecine classique? Louangés depuis des siècles par les artistes et les philosophes, les bienfaits de la nature sont désormais appuyés par des preuves scientifiques. En cette ère de grands bouleversements climatiques, les forêts urbaines exercent des pouvoirs thérapeutiques précieux. En gros, les études démontrent que les bénéfices de la forêt urbaine pour la santé proviennent à 40% de l'effet dépolluant des arbres et à 60% du bien-être physique et mental qu'on en retire, résume le Dr Pierre Gosselin, qui coordonne le programme de recherche en santé publique au sein du consortium Ouranos. Également médecin au programme Climat et santé de l'Institut national de santé publique du Québec, INSPQ, Pierre Gosselin et son équipe signent plusieurs travaux liés en nature urbaine et santé humaine. Citation : On sait maintenant que lorsque des forêts disparaissent, les problèmes de santé augmentent significativement. D'un point de vue scientifique, la preuve n'est plus à faire, être exposé aux espaces verts, les fréquenter, cela améliore la santé à presque tous les points de vue. Fin de citation. Un arbre, c'est bien. Une forêt, c'est mieux. Partout sur la planète, de plus en plus de personnes migrent chaque année vers les zones urbaines. Le Canada n'y échappe pas. Plus des deux tiers de la population habite la ville. Refuge d'un grand nombre d'industries, les milieux urbains se composent en majeure partie de zones construites et de surfaces asphaltées. En plus de favoriser l'émission de gaz polluants, nos villes bétonnées entraînent la formation d'îlots de chaleur et augmentent les températures locales. À Montréal, par exemple, où 80% de l'environnement est bâti, la température peut être de 5 à 10 degrés Celsius supérieure à celle des régions environnantes. Et avec les changements climatiques, les jours où la température passera au-dessus des 30 degrés Celsius risquent de se multiplier par 4 ou 5 au cours des années à venir. Or, à chaque canicule, de 10 à 12% des citoyens consultent pour un problème de santé. Cette proportion ira donc en augmentant, fait valoir Pierre Gosselin. Les fonctions écosystémiques des arbres et les forêts que ceux-ci composent fournissent donc des services aux valeurs inestimables. Plus efficace que le parasol, l'arbre produit un effet refroidissant qui a peu à envier aux climatiseurs domestiques. Un spécimen mature peut absorber jusqu'à 450 litres d'eau, qu'il transpire ensuite sous forme de vapeur par les stomates, qui sont de petits pores situés à la surface de ses feuilles, rafraîchissant ainsi l'air ambiant. De façon générale, on constate une différence de température de 4 à 8 degrés Celsius entre un site ouvert et un site situé sous la cime des arbres. À notre insu, les couverts végétaux qui truffent nos villes agissent aussi comme autant d'écrans protecteurs face aux émissions toxiques, parmi lesquels le monoxyde de carbone, le dioxyde d'azote et l'ozone. Ces polluants atmosphériques peuvent affecter sérieusement notre santé en perturbant les systèmes cardiaques, pulmonaires, vasculaires et neurologiques. Au Canada, ils sont la cause de 21 000 morts prématurées chaque année. Or, un seul arbre mature en milieu urbain peut intercepter 20 kg de poussière par an et capter jusqu'à 7 000 particules en suspension par litre d'air. Dans la seule région métropolitaine de Montréal, le couvert végétal, qui représente environ 20 % du territoire, séquestre en une année l'équivalent des émissions de carbone de 100 320 voitures sur un total de 968 500 véhicules pour toute l'île montréalaise. Quantifier les effets écosystémiques. Ces services écologiques fournis par les arbres, David Nowak s'attarde à les quantifier depuis le début de sa carrière. Analyste et chercheur au service des forêts du département de l'agriculture des États-Unis, USDA, David Nowak a développé des outils numériques de gestion des forêts urbaines et tente par ses travaux d'élucider la contribution de millions d'arbres au bien-être humain. Un des récents projets menés par son équipe établit une relation directe entre le travail purificateur des espaces verts et la santé humaine dans 86 des plus importantes villes du Canada. Le groupe évalue qu'en 2010, les services écosystémiques fournis par les forêts de ces 86 villes ont permis l'élimination de 16 500 tonnes de polluants atmosphériques. En moyenne, 30 morts auraient été évitées, de même que 22 000 incidences de symptômes respiratoires aigus grâce à l'effet des forêts. La valeur des bénéfices ainsi recueillis pour la santé humaine est estimée à 227 millions de dollars. C'est la ville de Montréal qui fait les plus grandes économies associées à l'activité écologique des arbres, soit plus de 30 millions de dollars en coûts de santé évités grâce à la captation de 1 400 tonnes de polluants. Viennent ensuite Toronto et Vancouver, dont les économies atteignent respectivement 25 millions de dollars, 1 470 tonnes, et 16 millions de dollars, 1 740 tonnes. Ces résultats peuvent paraître étonnants quand on sait que la couverture végétale de Montréal est deux fois moins importante que celle de l'île de Vancouver. Mais Montréal abrite aussi une population humaine plus grande, et présente des niveaux d'ozone et de particules fines plus importants que Toronto et Vancouver. Ce sont les polluants atmosphériques les plus mortels pour l'humain. En somme, puisqu'il y a plus de polluants à haut risque et que la densité de population est plus élevée à Montréal, explique David Nowak, il y a plus de personnes qui bénéficient des effets écologiques des arbres sur leur santé, ce qui entraîne plus d'économies pour le système. Les résultats concordent avec ceux obtenus par le chercheur en sociologie Dan Krause, affilié à l'Université du Nouveau-Brunswick, et publié en 2018 dans The Lancet. Le groupe de Dan Krause a pu accéder à des données populationnelles de 30 villes canadiennes. Pour les 11 années de suivi de l'étude, ils ont évalué l'exposition de 1 265 000 Canadiens aux espaces verts situés entre 250 et 500 mètres de leur résidence. De même, l'ampleur de ces zones végétalisées a été mesurée par images satellitaires. Dan Krause arrive à la conclusion que les risques de mortalité liés à plusieurs problèmes de santé, tels que le diabète et les maladies respiratoires, sont réduits de 10 % en moyenne. « C'est énorme », souligne Pierre Gosselin. Vous écoutez Thérapeute urbaine de l'ombre, texte de Sophie Payeur, paru dans le volume 43, numéro 3 de la revue Quatre Temps. Une invitation à bouger. Citation : Si les municipalités québécoises assumaient les coûts de santé de leurs citoyens, le verdissement des villes serait probablement plus important. Fin de citation, soutient Mélanie Beaudoin, conseillère scientifique et responsable du dossier des îlots de chaleur urbains à l'INSPQ. Citation : Les études nord-américaines et européennes sont probantes. Les individus qui habitent dans les secteurs plus verts sont davantage susceptibles de faire des activités physiques pendant leur temps libre. Et cette association est valable pour toutes les classes de la société. Fin de citation. Qui plus est, un paysage végétalisé serait garant d'activités physiques plus intenses et d'une durée plus longue. La proximité de la forêt en ville agit donc comme un incitatif à se délier les jambes. Selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS, la distance maximale recommandée est de 300 mètres de la résidence. L'entretien et la sécurité des espaces verts ne seraient pas à négliger non plus, puisqu'ils influencent leur utilisation, tout autant que la présence d'équipements sportifs, de sentiers de marche et d'aires de jeu. En plus, les arbres aux abords des rues et des petits parcs, qui densifient la végétation des quartiers et qui offrent des parcours ombragés, ont des effets comparables à la forêt sur la santé. Les bienfaits des zones végétalisées ont été examinés de plus près chez les personnes âgées et les enfants. Une étude américaine réalisée auprès des personnes de 65 ans et plus montre que chaque augmentation de 4,5 % de l'indice de végétation est associée à une probabilité de 7 % plus élevée de n'avoir aucun problème de santé chronique, tel le diabète et l'hypertension. Une autre recherche a conclu que les personnes âgées vivant dans des quartiers qu'elles considèrent comme plus verts et davantage adaptés pour la marche ont 13 % plus de chances de survie que le groupe ayant une perception inverse de leur quartier. Chez les enfants, le couvert végétal en périphérie de la résidence agirait particulièrement en réduisant l'indice de masse corporelle, IMC. La nature à proximité favoriserait également le calme, l'attention et la concentration en milieu scolaire, notamment chez les enfants aux prises avec un trouble déficitaire de l'attention. Pour l'ensemble de ces recherches, les résultats se sont révélés semblables même sur la base du statut socio-économique des populations étudiées. Promoteur de la santé mentale. De tous les bénéfices que l'humain peut retirer de la forêt en ville, les effets sur le bien-être mental sont parmi les plus puissants. Le seul fait d'avoir des espaces verts près du domicile, à moins de 300 mètres ou à 10 minutes de marche, augmenterait le niveau de santé mentale perçu. L'usage de ces espaces serait d'autant plus positif. L'effet restaurateur sur l'état de fatigue serait notable après 15 minutes de promenade. Et plus la durée du temps passé parmi les arbres augmente, plus le sentiment de vitalité est accru. D'autres recherches ciblant particulièrement la dépression montrent des conséquences positives sur les symptômes ressentis. Des recherches américaines évaluent qu'un indice de végétation élevé serait associé à un risque moindre de dépression et de détresse psychologique, alors qu'un couvert végétal de moins de 10 % entraînerait davantage d'anxiété et de stress. Les auteurs d'une de ces études dirigées par Kirsten Bayer du Collège médical du Wisconsin affirme même que, citation, « le verdissement pourrait très bien constituer une stratégie nationale pour améliorer la santé mentale ». Fin de citation. Doit-on s'étonner alors que, depuis 2018, en Écosse, des médecins généralistes prescrivent en toute légitimité des promenades en nature à plusieurs patients? Un projet pilote réalisé aux îles Shetland a confirmé que de telles prescriptions améliorent la tension artérielle, réduisent le risque de maladies cardiaques et favorisent une bonne disposition au bonheur. Imaginez les bénéfices qu'en retireraient les malades si nos hôpitaux investissaient dans l'aménagement d'espaces paysagers, laisse tomber Mélanie Baudouin. Son collègue Pierre Gosselin affirme qu'il faudrait d'abord éviter au Québec de démolir les espaces verts déjà en place, ce qui se produit trop souvent sur les chantiers de projets immobiliers. Car si les forêts urbaines fournissent de formidables services de santé, la disparition de ces espaces produit des effets proportionnellement dévastateurs pour la population, comme l'illustre une étude réalisée par Jeffrey Donovan, un collègue de David Nowak aux États-Unis. En 2013, son équipe a démontré que la perte de centaines de milliers de frênes ravagées par la grille, un insecte exotique, était associé à plus de 15 000 morts dues à des maladies cardiovasculaires, de même qu'à 6 000 morts résultant de problèmes du système respiratoire. Avec quelques collègues, je fais campagne afin que 1 % du budget de chacune des villes du Québec soit investi dans le verdissement, explique Pierre Gosselin. Jusqu'ici, le médecin et sa troupe ont reçu les appuis d'une quarantaine de villes et d'organismes. Ils espèrent pouvoir faire en sorte que la mesure soit mise en place dès que possible par le gouvernement de François Legault. C'était « Thérapeute urbaine de l'ombre », texte de Sophie Payeur, paru dans le volume 43, numéro 3 de la revue Quatre Temps. Une retraite satisfaisante. Un texte de Christine Venn, FCSICIM, paru dans l'édition printemps 2022 de la revue Mieux penser. Davantage qu'une question d'argent. Le secret d'une retraite heureuse est certainement sa planification. Voyons ensemble comment y parvenir. Préparer sa retraite, ça veut dire quoi exactement? À cette question, les réponses peuvent grandement varier. Certaines personnes portent peu d'intérêt au sujet et se disent qu'elles aviseront une fois arrivées à ce stade de leur vie. D'autres personnes, au contraire, consacrent beaucoup d'efforts à préparer leur retraite. Elles s'assurent de disposer d'un plan de retraite développé par des experts et de le faire réviser périodiquement afin d'être plus rassurées face à ce grand changement de vie. Ce plan de retraite, à l'instar d'une carte routière, leur permet de visualiser le chemin le plus rapide pour atteindre leurs objectifs financiers. Qu'on soit dans l'une ou l'autre de ces catégories, prendre sa retraite nécessite d'avoir épargné des fonds suffisants, car cette période dure en moyenne entre 25 et 30 ans. Toutefois, outre la préparation financière à la retraite, il ne faut pas sous-estimer l'importance de s'y préparer émotionnellement, socialement et physiquement. En effet, c'est lorsqu'on prend en compte ces différentes facettes qu'on se donne le plus de chances de vivre une retraite satisfaisante. Les piliers essentiels d'une retraite satisfaisante. En septembre 2021, un groupe de dirigeants se sont réunis dans le cadre de la Morningstar Investment Conference à Chicago afin d'échanger leur point de vue sur le sujet de la satisfaction à la retraite. Pour permettre une analyse pertinente de la question, un retraité présidait ce groupe afin de faire part de ses expériences et de son vécu. Des discussions, il est ressorti que le bonheur à la retraite reposait essentiellement sur trois piliers. Sans surprise, l'argent constitue le premier d'entre eux. En effet, l'argent reste un élément très important pour une retraite satisfaisante. Un manque à cet égard représente la plus grande peur liée à la retraite pour une majorité d'entre nous. Selon un sondage effectué par Zetti à la fin de 2021, ce serait le cas pour 87 % des Américains. Peu importe l'objectif d'épargne-retraite qu'on se fixe, épargner constitue un processus qui s'inscrit dans la durée, de sorte qu'il faut y accorder une grande considération aussitôt que possible, en économisant assidûment et régulièrement. Le deuxième pilier d'une retraite satisfaisante consiste à préserver les relations avec les pairs et la communauté. C'est simplifier à outrance la vie de retraité que d'y voir un week-end continuel ou des vacances sans fin. Rien ne garantit que ce qui nous rend heureux aujourd'hui lors de notre vie active continuera de nous rendre heureux à la retraite. La vie active et la retraite diffèrent trop pour que ce soit aussi simple. Ainsi, comme les occasions de rencontrer des gens, de sociabiliser et d'approfondir nos relations peuvent être nombreuses sur le marché du travail, plusieurs personnes vont préférer s'éloigner d'une partie ou de la totalité de leur réseau social lors de leur temps libre, soit pour rechercher le calme et la quiétude, soit pour partir à la découverte de nouvelles expériences. Au contraire, durant la retraite, la motivation à socialiser ou à cultiver nos relations peut prendre une plus grande place, car ces relations sont plus précieuses. D'ailleurs, cela prévient l'isolement social, une réalité à laquelle les retraités sont particulièrement à risque. Le réseau social peut même constituer l'élément le plus important d'une retraite heureuse, spécialement si l'argent n'est pas une préoccupation. Quand on parvient à s'entourer de gens avec des passions et champs d'intérêt similaires aux nôtres, il devient motivant de s'impliquer dans diverses activités, de développer sa créativité et de se réaliser. Or, comme pour l'épargne-retraite, construire son réseau social prend du temps et il est sage de s'y mettre avant que la retraite ne débute, et ce, sans se limiter aux relations de travail. De la Morningstar Investment Conference est également ressorti un constat fort intéressant qui mérite d'être mentionné. La seule relation qui n'apporte pas une plus grande satisfaction à la retraite est celle qu'on entretient avec nos enfants. De la sorte, si on a prévu de meubler notre retraite avec nos enfants en utilisant notre temps libre pour approfondir notre relation avec eux, par exemple, si on l'a négligée lors de notre vie active, celle-ci n'en sera vraisemblablement pas plus satisfaisante. De plus, augmenter la fréquence de nos interactions avec nos enfants, par exemple tous les jours plutôt que quelques fois par mois, ne rend pas non plus notre retraite plus satisfaisante. Cela contraste avec la satisfaction accrue que les retraités peuvent tirer de la relation qu'ils entretiennent avec leurs conjoints ou leurs amis. Lorsqu'on n'est pas en bonne santé, être heureux à la retraite est certainement plus compliqué, ce qui fait de la santé le troisième pilier de la satisfaction des retraités. Comme pour les deux autres piliers, le souci de préserver sa santé et les efforts faits en ce sens ne devraient pas débuter au moment de prendre sa retraite. Il s'agit d'un investissement à long terme. Or, plusieurs reconnaîtront qu'ils négligent leur santé en raison de leur journée trop chargée. Rappelons-nous donc que c'est la santé qui nous permet de jouir de notre retraite et de tirer pleinement avantage des deux autres piliers de sa satisfaction. Si on adopte de bonnes habitudes tôt dans la vie, par exemple une saine alimentation, la pratique régulière d'activités physiques et un mode de vie équilibré, une retraite satisfaisante deviendra plus accessible. C'est ainsi que, pris individuellement, chacun de ces trois piliers peut avoir un effet plutôt limité, et c'est en considérant leurs influences mutuelles qu'on peut comprendre la recette d'une retraite heureuse. Comment éviter de grandes insatisfactions? Tout d'abord, il est essentiel de comprendre ceci. Se préparer à la retraite ne se résume pas à coucher des montants sur le papier pour ensuite se faire dire « Tout est bien beau, vous n'avez qu'à vous lancer ». Une telle retraite, sans véritable but ou objectif, peut mener rapidement à de grandes insatisfactions et au sentiment de se sentir étouffé par la vie de retraité. Il faut plutôt la considérer comme un nouveau style de vie à adopter, dans lequel les interactions sociales et la réalisation de soi sont mises de l'avant. De plus, continuer de se sentir pertinent et utile est crucial pour l'estime de soi. Faites comme si vous commenciez un nouvel emploi. Chaque jour, fixez-vous de petits objectifs afin de retirer du bonheur de ces réussites. Avant toute chose, la retraite consiste à avoir une vision de sa propre vie, à se trouver une nouvelle raison d'être. Et puisque les choses ne se passent jamais tout à fait comme prévu, restons ouverts et soyons préparés à la possibilité d'avoir à faire quelques ajustements en cours de route. C'était « Une retraite satisfaisante », un texte de Christine Venn, FCICIM, paru dans l'édition printemps 2022 de la revue « Mieux penser ».
Nos suggestions de lecture, poésie. Des propositions des libraires indépendants, parues le 1er juin 2021 dans le carnet thématique « Je lis autochtone », une initiative de la revue « Les libraires ». S'agripper aux fleurs. Louise Canapé, Louve Mathieu et Jeanne d'Arc Volant. Édition David. Trois familles nous signent ces haïkus qui fige des instants fugaces, des éclats de beauté ou des éclats plus sombres. Tendre et dur à la fois, ce recueil bilingue en français et en inou s'inspire des grands espaces et de l'identité. Si les contradictions de la vie en réserve sont effleurées, c'est pour mieux comprendre la complexité qui habite ces poètes. Cette blessure est un territoire. Billy Ray Belcourt, traduction Mishka Lavigne, triptyque. C'est principalement du corps dont il est question dans ce livre qui, sous l'égide de la poésie, présente des fragments en vers, en liste, en prose, très courts, toujours d'une simplicité désarmante. Belcourt, un cri de l'Alberta, y présente un corps revendicateur, un corps queer aux facettes multiples, tant sexuelles, émotionnelles, spirituelles, autochtones, sacrées que colonisées. Un jour, j'ouvrirai mon corps pour libérer toutes les personnes prisonnières à l'intérieur de moi. Ma peau aime le Nord. Manon Nolin, Anénorak. Un vif désir de nommer les choses telles qu'elle les perçoit, de rendre hommage aux traditions de son peuple et à son territoire, de faire perdurer une culture ancestrale à travers la modernité. Voilà ce qui habite les textes de cette poète Innu. Je te raconte notre histoire. Je chante dans le tremblement du Chaputouane, toi, grand-père, mon territoire. C'étaient nos suggestions de lecture poésie, des propositions des libraires indépendants parues le 1er juin 2021 dans le carnet thématique « Je lis autochtones », une initiative de la revue « Les libraires ».
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.visevoix.com. Cette émission est rendue possible grâce à Jocelyne Langevin et Gilbert Lepage à la lecture, Anne Hébert et André Lebeau à la recherche, Nicolas Wartmann à la présentation et au montage.